Europe 1. Sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous et bienvenue dans Historiquement vôtre, le pendant radiophonique d'Amicalement vôtre, basé sur le même principe. Un homme raffiné et élégant fait équipe avec un homme, disons, un peu moins raffiné et élégant. Bonjour Mathieu Noël.
Vous êtes injuste envers vous-même, Stéphane. Je suis sûr que si je partageais mon abonnement GQ avec vous, vous seriez vite aussi classe que moi. En tout cas, bonjour à tous. Ravi de passer ces deux heures avec vous, vous et nos personnages, Stéphane.
Oui, Mathieu, en tentant de faire croire à nos auditeurs que c'était vous l'homme élégant de notre duo, vous avez essayé de brouiller les pistes, exactement comme nos trois personnages du jour.
Voilà.
Ils ont brouillé les pistes de leur propre vie. À commencer par l'un des plus grands créateurs que le monde ait connu, Karl Lagerfeld. On connaît ce qu'il a bien voulu nous en dire, et plus que la mode, il a créé son image, mais aussi sa propre histoire, quitte parfois à raconter tout et n'importe quoi. Puis je vous raconte une experte en autobiographie qui a pris tant de masques qu'on ne sait plus ce qu'elle a réellement vécu ou pas, l'écrivaine et femme de lettres Marguerite Duras. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait à 99% vrai d'une artiste plus proche de nous et qui, elle aussi, s'est beaucoup amusée à brouiller les pistes. Amanda Lear.
Oui, et Stéphane, autant d'habitude, je peux descendre à 90, voire 80% de vrai parce que la personne en question n'écoute pas. Autant là, cet après-midi, je vais devoir faire gaffe à ce que je raconte car Amanda nous écoute.
Oh oui, Mathieu, tu as raison, mon poulet. Je vais raconter nos vacances en Provence. Il y a du dossier et pas que du glorieux.
Vous l'avez reconnu, hein. C'est Sébastien Bordenave qui imite Amanda Lear.
Pas du tout, c'est Amanda Lear, Stéphane, évidemment.
Et avec nous, comme chaque jour, elle nous entraîne dans l'intimité des grandes ce monde, Clémentine Portier-Kaltenbach.
Bonjour, bonjour à tous. Est-ce que vous vous souvenez qu'il y a quelque temps, je vous ai raconté comment jadis on cherchait à transmettre les nouvelles le plus vite possible, entre chevaucheurs, coureurs, télégraphes, chapes, etc. Oui, mais comment faire pour que ces messages ne soient pas compris s'ils venaient à tomber entre des mains indésirables?
On les codait ou on écrivait
exactement,
à l'encre sympathique.
Exactement, mais deux méthodes en particulier, la stéganographie, des noms un peu barres, et la stéganographie et la cryptographie utilisées depuis des lustres, notamment par l'infortunée reine Marie Stuart. Vous verrez ça.
Avec nous également David Castello-Lopez qui remonte aux origines d'une invention.
Oui, encore plus loin dans l'enfance, je parlais du super soccer, le pistolet à eau, je vous parlais de la tétine.
Ah oui.
On peut vraiment suivre tout votre profil psychologique, on a l'impression de suivre votre analyse avec
Exactement,
vos sujets.
Après, je ferai les origines de la grossesse, puis de la conception.
Vous avez parlé avec votre psy de la tétine?
Je n'ai plus de psy en ce moment, mais je devrais.
Nous, en fait, on tient lieu de votre psy.
Exactement.
Et puis avec Olivier Pouls, on parlera d'un mets, on remonte aux origines
d'un produit, d'un fromage.
De terroir.
Voilà, alors est-ce qu'on sera en France ou est-ce qu'on sera en Suisse?
Alors excusez-moi, mais si on parle du gruyère, on est en Suisse.
Mais si on parle de
on parlera du gruyère et je vous donnerai une recette originale et qui met bien en valeur, je trouve, le gruyère. Mais il y a du gruyère en France aussi, vous verrez les différences.
Enfin, c'est le triste constat qui s'impose après plus d'un an de quiz. Stéphane Bern nous a menti, il n'est pas si calé que ça en histoire. Bern to be alive nous l'a prouvé, même si c'est vrai qu'au fil du temps, on l'a découvert capable de mensonges plus graves encore et plus gros surtout, sur son âge notamment.
T'as quel âge aujourd'hui, mon petit coco?
40.
40 ?
Décidément, vous êtes bien conservé. C'est les récits, ça conserve. Et justement, Stéphane...
On brouille les pistes aujourd'hui.
Le moment est venu de nous livrer à votre deuxième hobby préféré après le léchage de timbre, l'imitation de Karl Lagerfeld, notre premier personnage à avoir brouillé les pistes de sa propre vie.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il est un grand créateur qui a donné des centaines, si ce n'est des milliers d'interviews, sans jamais trop en dire.
C'est moi ?
Presque Stéphane, sauf que lui n'a vraiment pas tout dit. Il a inventé, dissimulé, menti aussi. Stéphane nous raconte celui qui a passé une bonne partie de son temps à brouiller les pistes pour mieux se dérober derrière son personnage, le Kaiser de la mode, Karl Lagerfeld.
L'image de Karl Lagerfeld est à la fois nette et flottante. Elle se dessine à longueur d'article, vantant un homme aux multiples visages et aux changeantes vérités que de répétitives interrogations échouent souvent à éclaircir. À commencer par sa naissance, à Hambourg, en Allemagne, le 10 septembre 1938. Ou bien, est-ce 1935 ou 1933 ? Le jeu de piste autour de l'année où il a vu le jour occupa longtemps les commentateurs, jusqu'à ce qu'un quotidien allemand publie son acte de baptême, en 1933 donc. Ce qui n'empêchera pas Karl Lagerfeld de continuer à semer le trouble en affirmant que sa mère avait modifié la date sur le document. « Je ne suis même pas né le 10 septembre », affirmera-t-il. Pourquoi donc tant de mystère sur un élément qui peut paraître insignifiant ? Après tout, l'année n'a que peu d'importance. Ce jeu semble en revanche être révélateur d'une personnalité qui se forge dès l'enfance dans l'imaginaire, dans une fuite de la désagréable réalité, dans le beau plutôt que dans le vrai. Être né en 1938, comme Karl Lagerfeld l'a longtemps affirmé, attesterait de ce qu'il a répété à l'envi sur une enfance durant laquelle il n'aurait pas vraiment subi la guerre ou les affres du nazisme. Pourtant, il a bien vu flotter les drapeaux ornés de croix gammées. Il a bien vu les réfugiés affluer quand l'Allemagne était aux abois. Et il a bien dormi dans une grange derrière sa propre maison quand les Alliés ont réquisitionné la demeure familiale. En a-t-il souffert ? Sûrement. Alors, autant effacer cette enfance qu'il a toujours qualifiée d'ennuyeuse, simplement occupée à dessiner, à lire et déjà à se vêtir avec élégance. Il a donc 20 ans et non 15, comme il l'affirme, lorsqu'il arrive avec sa mère à Paris en 1952. Karl Lagerfeld remporte l'année suivante le premier prix du concours de mode ex aequo avec d'autres jeunes créateurs, dont un certain Yves Mathieu Saint-Laurent, que l'on connaîtra bientôt sous le nom d'Yves Saint-Laurent. Premier pas dans la mode et début d'une relation avec le futur grand couturier qui, entre amitié, jalousie et rivalité, fera elle aussi couler beaucoup d'encre. Karl Lagerfeld devient rapidement un brillant styliste. Il entre dans diverses maisons, Balmain, Patou, puis un peu plus tard, Chloé, Fendi et d'autres, conscient que l'avenir est au prêt-à-porter plutôt qu'à la haute couture, lui qui dessine plus qu'il ne fabrique. Ce qui ne l'empêche pas de prendre les rênes de la maison Chanel, à laquelle il redonne ses lettres de noblesse dans les années 80. Avant Chanel, entre les années 50 et 70, Karl travaille beaucoup et fréquente le tout Paris. Il brille par son esprit, son immense culture et ses airs de noble du XVIIIe siècle que son inimitable accent vient parfaire. Il est après tout un aristocrate. Son père est un baron danois, ou plutôt suédois, comme il l'affirme ensuite. En réalité, son père n'est ni baron ni suédois, mais un riche industriel bien allemand. S'il est sûrement utile de se donner des origines scandinaves plutôt que germaniques dans la France d'après-guerre, il est aussi commode de parer aux éventuelles questions sur les quelques compromissions avec le régime nazi qui furent, elles, bien réelles. Son père, Karl Lagerfeld, semble vouloir en minimiser l'importance, décrivant un homme lointain et absent. Un homme qui l'a pourtant sûrement influencé dans son rapport à la réussite et au travail incessant. Un homme polyglotte qui a eu mille vies entre Allemagne, Venezuela et Russie. Des vies que Karl, lui, s'invente. La personne dont Karl Lagerfeld parle le plus, c'est sa mère. Fut-elle une grande bourgeoise, une aviatrice, une habituée des nuits berlinoises des années folles ? Elle est, en tout cas, selon les dires du styliste, une mère castratrice, à la limite de la cruauté, une femme dure, ironiquement acerbe, égoïste, bien que parfois généreuse. On dirait qu'il brosse là un portrait de lui-même. Et si terrible qu'elle ait pu être, le grand couturier l'accueillera toujours et longtemps à ses côtés. Et c'est dans le château qu'il a acquis en Bretagne qu'elle s'éteint en 1978. Car oui, Karl Lagerfeld est châtelain. Bien né, il est rapidement devenu très riche, ne lésinant jamais à la dépense pour meubler ses diverses demeures à Paris, Biarritz, Monte-Carlo, Rome ou ailleurs. Autant d'univers que Karl met en scène, tantôt décoré de meubles Louis XV, tantôt de design italien aux couleurs criardes, puis minimaliste et épuré. Il change de mobilier au gré de ses envies ou de ses redressements fiscaux. Karl saute d'une demeure à l'autre, comme il jongle avec les langues, lui qui parle couramment anglais, allemand et français. Chaque idiome lui permet de raisonner différemment. Cette capacité à changer de langue, de mode de pensée, d'environnement domestique autant que professionnel témoigne que Karl Lagerfeld déteste l'immobilité. « Le changement est la façon la plus saine de survivre », dit-il. Et s'il est une chose qui ne peut a priori être changeante, c'est bien une biographie. Est-ce pour cela qu'il ne regarde jamais son passé ou le construit en fonction de ses envies ? Ce qui intéresse Karl Lagerfeld, c'est la création, au présent. L'apparente simplicité de quelques coups de crayon qui transcrivent l'essence du style et de l'élégance de ses créations, s'oppose à l'enchevêtrement de ses déclarations sur sa vie et aux efforts qu'il fournit pour se créer un personnage. Car au-delà des vêtements, ce qu'il forme et façonne, c'est lui-même. Et à force de jouer avec la réalité, le créateur ne disparaît-il pas derrière la créature ?
Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Ils ont brouillé les pistes de leur propre vie. C'est le thème d'Historiquement vôtre cet après-midi. Un thème qui va comme un gant de cuir, bien sûr, à Karl Lagerfeld, qui s'est beaucoup raconté sans beaucoup dire. Vous nous disiez, Stéphane, que le grand couturier qui nous a quittés en 2019 avait brouillé les pistes, notamment sur sa naissance, ses parents et son histoire familiale, et a déployé beaucoup d'efforts pour se créer un personnage public, quitte à disparaître parfois derrière son propre avatar.
Après avoir été une sorte de caricature de séducteur italien ou d'aristocrate d'ancien régime, puis éphèbe aux muscles saillants ou élégant dandy offrant les plus fastueuses fêtes sans jamais profiter des délices de l'excès, se saoulant au Coca-Cola Light plutôt qu'au champagne avant de frôler l'obésité, Karl Lagerfeld finit par se calcifier dans le costume que nous lui connaissons. Pantalon serré, veste noire ajustée sur col blanc, fige sa mince silhouette. Karl Lagerfeld préfère cacher son regard pourtant doux et aimable derrière le masque au teint de lunettes fumées qu'il n'enlève jamais, du moins en public. Plus qu'une tenue, c'est un véritable uniforme. Il disparaît derrière l'habit. Brouiller en permanence les pistes sur sa vie et ses origines lui permet de devenir une sorte d'être hors sol, sans passé, sans histoire, dont la substance charnelle s'évapore presque derrière le vêtement. Un être qu'il est donc plus aisé de façonner à sa guise. « Je ne veux pas être une réalité dans la vie des autres, disait-il. Je veux être une apparition. » Est-ce de la pudeur ? Un souci de liberté ? Une obsession du contrôle ? Le fait est qu'à partir des années 2000, le corps fondu dans ses tenues toujours semblables, sa personnalité se cache encore plus derrière la marque qu'il est devenu. Karl Lagerfeld. Son nom et sa silhouette sont un produit. Il dit lui-même qu'il est un logo. Ne serait-ce en fait le meilleur moyen qu'on le laisse en paix. Marionnette médiatique, selon ses mots, cette image comme une diversion poussée à son paroxysme ne lui permettrait-elle paradoxalement d'être tout simplement tranquille dans sa solitude ? Tranquille pour dévorer les livres et enchaîner les créations. Karl Lagerfeld a laissé des œuvres photographiques et des centaines de collections, mais selon les spécialistes, il ne laisse pas véritablement d'héritage. Il n'y a pas un style Lagerfeld, plutôt une façon de capter et d'extrapoler la tendance, de l'adapter au nombre, une façon d'avoir compris avant les autres le passage de l'artisanat à l'industrie, en plus d'être un surdoué du marketing. Ce qu'il laisse, ce n'est pas véritablement une œuvre, c'est lui-même, ou plutôt l'image qu'il s'était choisie. Et qu'importe après tout la vérité. Je peux mentir à tout le monde, mais je ne peux pas me mentir à moi-même, a-t-il déclaré. Et c'est au final le plus important.
Europe 1,
historiquement vôtre.
Et pour continuer à décrypter Karl Lagerfeld, nous avons le plaisir d'accueillir celle qui lui consacre une riche biographie. Bonjour Marie Ottavi.
Bonjour.
Bonjour Marie Ottavi, vous êtes journaliste à Libération et vous venez de publier Karl aux éditions Robert Laffont. Vous avez pu vous entretenir avec Karl Lagerfeld à deux reprises avant sa mort. Quel souvenir vous a-t-il laissé ? Était-il un homme plus bavard que secret ?
Alors, très bavard, ça, c'est clair. D'ailleurs, c'est ce que je raconte dans le livre. C'est-à-dire qu'il m'a, au début de l'entretien, il m'a donné cet entretien dans le cadre de mon livre sur Jacques de Bachère. C'était la première fois qu'il acceptait de parler de son grand amour. Donc, l'entretien était assez chargé d'émotions. Et il m'a posé la première question. Évidemment, il n'a pas attendu la fin de ma réponse. Et tout s'est enchaîné. En fait, c'était... Donc oui, bavard, il l'était. Mais ce qui était fascinant avec lui... C'est pourquoi, la raison aussi pour laquelle j'écris un livre sur lui. Pendant ce premier entretien, on est allé très loin quand même dans son intimité. On a parlé de l'amour qu'il avait pour Jacques de Bachère, on a parlé de l'absence de l'être aimé, puisque Bachère est mort à la fin des années 80 du sida. Et là, il ne mentait pas. Enfin, et il était très ému d'ailleurs de parler de ça.
Pour écrire cette biographie, vous avez rencontré de nombreux proches, évidemment, de Karl Lagerfeld, dont Sylvia Fendi, les époux Arnaud ou la princesse Caroline de Hanovre. Quel homme décrivent-ils tous ? Et surtout, est-ce que tous décrivent le même homme ?
Oui, il y a quand même des traits assez communs. Mais par exemple, Sylvia Fendi, elle, c'est un cas un peu à part parce que c'était sa famille italienne, donc elle l'embrassait comme du bon pain. Ils fêtaient son anniversaire ensemble alors qu'il détestait. Il a eu 50 ans pendant 10 ans, apparemment, d'après ses proches. Et il détestait qu'on le touche. C'était quelqu'un qui restait toujours à distance. Mais voilà, à l'italienne, il avait ce lien avec elle parce que les Fendi, il les avait rencontrés dans les années 60 et il est toujours resté très proche d'elle. Bernard Arnault, c'est un peu différent. Il ne s'embrassait pas comme du bon pain. On n'en était pas là.
Oui, j'imagine mal la scène.
Mais en revanche, oui, ce qu'il raconte, Bernard Arnault, par exemple, est fasciné par l'intelligence et la culture de Karl Lagerfeld. Et Karl Lagerfeld est l'un des rares, si ce n'est... Enfin oui, vraiment l'un des seuls, c'est ce que m'explique Antoine Arnault, le fils de l'industriel. C'est que Karl Lagerfeld lui dit les choses, lui dit ce qu'il pense sur une nomination, une collection, chose que personne ne fait, parce que dès qu'on se retrouve devant quelqu'un comme Bernard Arnault, deuxième fortune mondiale, eh ben, tout de suite on est moins véhément. Et il raconte aussi un Karl drôle parce que méchant et méchant parce que drôle, ça revient vraiment très fréquemment, parce que c'est cette liberté qui dépasse parfois les limites, voilà.
Il y a quelque chose d'étonnant sur votre livre. Je regardais la couverture de votre livre, je la trouvais très belle et je me disais, il y a quelque chose de bizarre sur cette photo de Karl Lagerfeld. En fait, il apparaît sans ses éternelles lunettes noires. C'est une photo d'identité, c'est quoi? Comment vous voulez
trouver? Alors en fait, c'est une photo, je suis assez fière, je suis très fière même de cette couverture. Parce que quand j'ai vu cette photo, qui était déjà cette série de 6 photomatons qui lui servaient pour ses papiers d'identité, comme n'importe qui, puisque n'importe... Enfin voilà, Karl Lagerfeld aussi avait besoin de faire des papiers d'identité.
Pour voyager, voilà. Faire le tour du monde.
Et mais porter ses lunettes sur un passeport, ça devient un peu compliqué. Et j'ai su tout de suite que c'était la couverture. Parce que ce que j'aimais aussi, c'était ce millième de seconde où on se demande si c'est lui. Parce que le voir sans lunettes, c'est
déstabilisant.
C'est étonnant. Et je trouvais qu'il était assez sharp, assez beau, enfin très mode. Ça correspondait bien à ce que je voulais. Et puis, bon voilà, dans ce livre, j'ai quand même l'ambition de révéler beaucoup des facettes de Karl Lagerfeld.
Mais c'est vrai qu'il gardait ses lunettes pour se cacher, de même qu'il se maquillait.
Oui, il se maquillait.
Qui était maquillé, et c'est drôle parce que quand vous déjeuniez ou dîniez avec lui, à la fin, le maquillage était sur la serviette. Et donc, c'est, forcément, on s'en rend compte à ce moment-là.
Ouais. Voilà, beaucoup de femmes connaissent ça, d'ailleurs.
Mais moi, j'ai moins l'habitude de le faire. Non, mais ça raconte beaucoup de lui, c'est-à-dire le fait qu'il maquillait beaucoup sa vie.
Oui, tout à fait. Il a vraiment construit, bâti un personnage. Donc, il y a des mensonges, il y a une façon de se réinventer. Il y a une façon aussi de se montrer. Ouais. Il avait vraiment ce sens de l'image qui, aujourd'hui, voilà, nous inonde. Mais lui, il maîtrisait ça, il avait vraiment un objectif avec ça.
On va continuer à parler de nos personnages qui ont brouillé les pistes, et de Karl Lagerfeld en particulier, avec notre invitée Marie Ottavi sur Europe 1. A tout de suite.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Ils ont brouillé les pistes de leur propre vie. On parle de Karl Lagerfeld cet après-midi dans Historiquement Vôtre avec notre invitée Marie Ottavi qui publie Karl, une riche biographie aux éditions Robert Laffont. Alors, dans ce livre, Stéphane le racontait aussi dans son récit, Karl Lagerfeld, on le sait, a beaucoup brouillé les pistes sur sa jeunesse en Allemagne et même sur sa date de naissance. Et on disait que ce n'est pas par coquetterie qu'il a fait ça, pas seulement. C'est aussi pour ne pas se confronter à un passé qui le hante certainement.
Oui, parce qu'en plus, il est né en 1933, qui est une année terrible pour le peuple allemand. Enfin, c'est l'avènement du nazisme. Et lui, il refuse de répondre aux questions concernant cette période. On a découvert très récemment que ses parents avaient été quand même impliqués dans des associations nazies. Pour son père, pour continuer à produire du lait, il avait été un peu dans l'obligation d'intégrer des groupements nazis. Et ça, c'est une chose qu'il a toujours cachée. Et aussi, ça explique aussi le fait qu'il se rajeunit de 5 ans. Ce n'est pas qu'une coquetterie, même si ça l'est. Mais c'est aussi une façon de ne pas répondre à des questions, parce qu'il sait que sinon, dans toutes les interviews, on l'interrogera. Et dans le livre, je publie une copie d'un de ses passeports, qui date des années 70, où on voit qu'il a, à la main, réécrit son passeport pour réécrire la date. Et donc, ça allait très loin. Enfin, et ça, c'était d'ailleurs avec sa cousine. Et avec sa cousine, ils avaient décidé, très jeune, de se rajeunir de 5 ans. Et donc, c'est comme ça, c'est un souvenir de jeunesse. Mais elle, par exemple, sur sa pierre tombale, il y a encore la fausse date de naissance.
Ah,
son fils m'explique ça. Donc, ça va très loin. Mais en effet, ça, c'est le premier mensonge qui va déterminer probablement tous les autres.
Quelle relation, Marie, il entretenait véritablement avec ses parents? Il disait qu'il avait des relations très distantes avec son père. En revanche, sa mère... il parlait toujours d'elle et qu'elle l'obligeait à porter des cravates très tôt, qu'il fallait jamais se plaindre. Mais en même temps, il la dépeignait de façon assez peu flatteuse.
Il sait très bien jouer avec ça. Il sait parfaitement ce que ça va provoquer dans l'esprit des gens. Mais son père est presque trop gentil pour qu'il puisse le respecter. Tous les témoins me disent que le père de Karl Lagerfeld, Otto Lagerfeld, était un homme assez bon, généreux, plutôt bonhomme, très pris par ses affaires. Et sa mère était assez raide. Alors, bon, il y a des gens qui me disent qu'elle n'était pas aussi dure que ce qu'il décrivait. Mais d'autres m'ont quand même confirmé que c'était une femme sévère, avec de l'esprit. Et lui, ce qu'il aime, en fait, c'est... Il raconte à quel point elle est difficile, mais au lieu d'assumer d'être victime de cette mère qui est vraiment presque brutale, enfin, qui l'est complètement même, il en fait une ligne de vie. Elle a beaucoup de phrases définitives et vraiment, il va en faire des codes, un motto qui va suivre comme ça tout au long de sa vie.
Et retracer la vie de Karl Lagerfeld, c'est aussi se plonger dans l'histoire récente de la mode. En quoi il a contribué à révolutionner l'industrie de la mode ?
Déjà, Karl, il était très proche de Saint Laurent. Ils ont commencé ensemble. Et ensuite, il est l'un des premiers stylistes à quitter la haute couture pour le prêt-à-porter. Donc ça, c'est déjà assez fondamental. Ça prouve que il a du nez. Puis ensuite, c'est plutôt à la fin des années 90 où il est d'ailleurs en... C'est un peu compliqué pour lui chez Chanel. Bruno Pavlovski, qui est à la tête de Chanel, m'expliquait qu'il a même failli être congédié parce qu'il n'arrivait plus à suivre les tendances. Enfin, on était en pleine...
On oublie ça parce que Karl Lagerfeld, avec le recul, on a l'impression que c'est un dieu vivant de la mode. Il a eu une carrière et donc dans cette carrière, il y a eu des hauts et des bas.
Qu'il était en faiblesse chez Chanel, ça, on ne le savait pas. C'était complètement tu, personne ne l'admettait jusque-là. Et donc, à ce moment-là, lui se reprend, perd énormément de poids, devient la figure qu'on a connue, qu'on connaît maintenant désormais. Qui a réussi à marquer les esprits, mais il a quand même eu de l'embonpoint pendant pas mal d'années.
Vous l'avez connu.
On s'en souvient. Et ensuite, il va faire ce que j'appelle un peu en plaisantant là, sa remontada. Il va multiplier les défilés. Il va proposer à Chanel d'en rajouter deux par an. Il va faire des shows de plus en plus spectaculaires. Et il va vraiment travailler là-dessus sur l'image. Évidemment, l'image est au cœur de la mode aujourd'hui. Et c'est ce qui fait gagner beaucoup d'argent au groupe. C'est cette façon dont l'image va pouvoir aller jusqu'aux confins de la planète, de la Chine et que sais-je. Et lui, il a toujours eu le sens de ça. Donc voilà. Et c'est aussi sa présence médiatique, parce que c'est l'un des premiers à assumer d'avoir réponse à tout. Donc tous les journalistes veulent un mot de Lagerfeld. Toujours.
C'est une rockstar. En fait, il devient une rockstar.
C'est la première rockstar.
Complètement.
Mais Marie, au fil des pages dans votre livre, on croise évidemment tous les grands noms de la mode.
Oui.
Christian Dior, Yves Saint Laurent, Pierre Berger, Pierre Balmain. Il y a cette rivalité dont vous avez souvent parlé avec Yves Saint Laurent. Il avait plus d'amis ou d'ennemis ?
Alors la mode, c'est pas vraiment un monde très amical.
les épargnes ne servent pas qu'à faire des
ourlets. C'est ça, c'est un monde très... Donc ils sont... Personne n'est très ami, il n'y a pas vraiment une bande d'amis, par exemple, de couturiers. Yves Saint Laurent, il s'intéresse à très peu d'autres créateurs. Et Lagerfeld, lui, il va se rapprocher, par exemple, de Galliano quand il est au top. Et puis ensuite, être assez dur avec lui quand il va chuter. Il a deux grands ennemis, Yves Saint Laurent et Pierre Berger, surtout Pierre Berger, à qui il en veut beaucoup. Pour lui, il l'a séparé de Saint Laurent, son premier ami. Et il va être très dur avec eux, vraiment, il va être sans pitié. Les piques qu'il peut dire en privé, il va les dire aussi dans des interviews, publiquement, assumer ça. Il est très ambivalent, Lagerfeld. Moi, dans cette biographie, c'est toutes ces ambivalences que je voulais montrer. C'est-à-dire que les gens qui l'ont côtoyé, qui l'ont aimé, voyaient bien qu'il pouvait être très dur, très arrogant. C'est l'image qu'il voulait donner, c'est la première image que le grand public a de lui. Quelqu'un de sévère, cassant, comme ça, très éloquent. Mais c'est aussi quelqu'un d'extrêmement drôle, qui respectait tout le monde dans ses studios, enfin les petites mains, etc. Il avait un profond respect pour ces gens qui n'avaient pas de pouvoir, entre guillemets.
Et est-ce que ce n'était pas quelqu'un aussi d'extrêmement seul ?
Très seul, très seul. Et ça, il l'a toujours assumé. Petit, à l'école, il trouvait ses camarades mal habillés. il vivait à la campagne, donc il était très méprisant. Il y avait un vrai mépris. Son premier véritable ami, c'est Yves Saint Laurent, quand il arrive à Paris... parce qu'ils ont énormément de points communs, mais il choisira d'être seul, ouais, toute sa vie, jusqu'au bout.
Votre livre est le fruit d'un incroyable travail. Vous avez enquêté pendant 2 ans sur Karl Lagerfeld pour produire ces quelques 666 pages, le chiffre du diable. Est-ce que Karl a encore des secrets pour vous ?
Oui, parce que en fait, je prétends pas le révéler non plus. C'est ce qui est intéressant, en fait. Il y a énormément de chapitres dans ce livre. J'ai fait des chapitres très courts qui rappellent un peu son rythme staccato, la façon dont il avait de parler et de pouvoir parler de tout. Mais il reste mystérieux. Je parle d'énormément de choses. Beaucoup de gens me parlent pour la première fois, révèlent des aspects de sa personnalité qu'on ne connaissait pas. Mais en revanche, ce mystère, il plane encore. Notamment sur l'amour, sur le côté, son côté charnel, ou plutôt non charnel, complètement très hygiéniste. Et oui, il y a beaucoup de questions auxquelles il n'a pas, répondu.
Merci en tout cas Marie Ottavie de nous avoir révélé les différentes facettes de ce grand couturier. Je rappelle que Karl, la biographie que vous consacrez à Karl Lagerfeld, vient de paraître aux éditions Robert Laffont.
Merci beaucoup.
Europe 1, historiquement vôtre.
À suivre, elle aussi brouille les pistes et parle même en langage codé parfois.
Flou, 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 flou.
Vous voyez, drôle de personne que Clémentine Portier-Kaltenbach qui nous plonge dans l'intimité de l'histoire pour décoder une reine qui codait elle aussi ses messages, Marie Stuart.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours, dès 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires qu'elle est parfois la seule à comprendre. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach.
C'est bien vendu.
Aujourd'hui, Clémentine, il faut dire que les messages ne sont pas forcément faciles à comprendre parce que vous nous racontez comment la reine d'Écosse, Marie Stuart, codait ses messages.
Oui, Stéphane, et pour vous, je vais faire un effort. Je vais parler.
C'est gentil.
Je vais parler
parfois,
fort.
Même quand vous parlez d'autre chose, ça nous paraît parfois codé.
Je vais parler fort et distinctement pour les vieux messieurs présents dans ce studio. Oui, sachez que dès la plus haute antiquité, quand on voulait communiquer des messages secrets, on utilisait ce que l'on appelle la stéganographie. Alors, comme le grec n'a aucun secret pour vous, Stéphane,
absolument.
Vous aurez reconnu le grec ancien stéganos, qui veut dire étanche, et graphé, bien sûr, graphé, l'écriture. La stéganographie, c'est littéralement l'écriture secrète, dissimulée. Hérodote raconte que l'une des méthodes employées sous l'Antiquité consistait à graver un texte sur une tablette de cire. Vous savez, c'est comme ça qu'on communiquait dans la Grèce antique et aussi à Rome. Alors, on marquait son petit message sur la tablette de cire. On la recouvrait de cire à nouveau pour dissimuler le premier message. Hérodote cite également la méthode qu'employa un certain Histier pour inciter son gendre Aristagoras à se révolter contre Darius, le roi de Perse. Comment fait-il ? Il fait venir un de ses esclaves, il lui fait raser la tête, il lui tatoue le message sur le crâne et il attend pour envoyer le messager à son gendre que les cheveux aient repoussé.
C'est génial.
Ni vu ni connu, je t'embrouille. Hein. Alors, plus près de nous, vous avez peut-être déjà vu, Stéphane, quand on visite les archives nationales à l'hôtel de Soubise et qu'on voit l'armoire de fer, on a conservé aux archives nationales à Paris une doublure de pourpoint qui porte les instructions secrètes de Gaspard de Coligny aux habitants de Rouen assiégés. Voilà. La doublure, et c'était absolument invisible, il suffisait de découdre et envoyer les instructions de Coligny. C'est un objet qui date de 1562. Alors, autre technique, bien sûr, de stéganographie, vous la citiez tout à l'heure, Stéphane, l'encre sympathique qu'on révèle avec du jus de citron, et plus près de nous, ce qu'on appelle la technique du micro-point de Zapp, utilisée pendant la guerre par les Allemands. Cela consiste à réduire une page à un point.
Comment ça marche, ça ?
Eh ben, vous prenez une image, un microfilm, une photo, vous la réduisez au maximum, elle ne représente plus qu'un point, un point sur un i, par exemple, mais c'est un message secret. Mais il y a une très tragique histoire, non pas de stéganographie, mais cette fois de cryptographie, c'est celle de Marie Stuart, que Stéphane, bien sûr, connaît par cœur. On est encore avec ce mot dans le grec ancien, cryptos, caché, et graphé, écriture. Donc il ne s'agit pas de cacher le message lui-même, mais de rendre ce message inintelligible pour d'autres que soi. Il y a un code à déchiffrer, si vous ne le connaissez pas, eh ben, c'est râpé. Alors c'est l'histoire d'Enigma pendant la dernière guerre, naturellement. Fin 1585, Marie Stuart est retenue prisonnière depuis déjà 17 ans dans divers manoirs anglais par sa cousine la reine Elisabeth Ier quand elle est transférée au château de Chartley. Elisabeth Ier se méfie au plus haut point de sa captive, elle sait que certains de ses sujets sont prêts à tout pour la faire évader et l'installer sur le trône, qu'évidemment la France et l'Espagne catholique verraient d'un très bon œil qu'une reine catholique revienne sur le trône d'Angleterre plutôt qu'une protestante. Donc évidemment, plus que jamais, il faut se méfier de Marie Stuart, elle doit être surveillée de près. Et donc, Chartley Hall, où on l'a tenue prisonnière et donc mise sous étroite surveillance. Marie est privée de tout contact avec l'extérieur et rien qui n'entre ou sort n'est pas fouillé soigneusement. Donc, pour pouvoir communiquer avec ses partisans, elle va apprendre à utiliser la cryptographie et utiliser un code. Et le danger de la cryptographie, c'est que quand vous pensez utiliser un code que personne ne peut comprendre, ben évidemment, vous écrivez absolument le fond de votre pensée. Et c'est ce qu'elle va faire en échangeant de nombreuses missives avec Sir Anthony Babington, le jeune aristocrate catholique qui a pris la tête de la conspiration visant à la délivrer. Par malheur pour les conjurés, celui qui fait office de facteur à Chartley Hall, Guy Ford, est en réalité un agent double au service de Sir Francis Walsingham, premier secrétaire de la reine Elisabeth. Et si Marie Stuart a été transférée au château de Chartley, c'est justement parce que ce Guy Ford est originaire des environs, il connaît tout le monde et donc tous les messages sont d'abord présentés à Walsingham. Et Walsingham, il est celui qui a créé à Londres une école du chiffre, parce que ça se pratique beaucoup déjà à l'époque et il s'est offert les services du meilleur cryptanalyste d'Europe, un nommé Felipes. Et pour lui décoder le chiffre utilisé par Marie Stuart et Babington ne va être qu'une simple formalité, c'est un code très simple, donc lui, il arrive à faire ça en deux temps trois mouvements. Donc le 17 juillet 1586, dans une lettre très très mal cryptée, Marie approuve le meurtre de sa cousine et donne des conseils aux conspirateurs. Elle vient de signer son arrêt de mort. Le 15 août, Babington et ses six complices sont arrêtés. Leur exécution, le 20 septembre 1586, atteindra un sommet dans l'horreur. Quant à Marie Stuart, elle est déclarée suspecte dans ce complot. Elle est exécutée six mois plus tard, le 8 février 1587, au château de Fotheringay. Mais ce qui est tragique dans cette histoire, c'est que si elle avait écrit sans coder son message, jamais elle n'aurait été aussi explicite. Elle aurait dit un truc en disant « Oui, je ne désapprouve pas ce projet qui me semble intéressant. » Enfin, je ne sais pas ce qu'elle aurait utilisé comme formule, mais pas « Allez-y, vous pouvez estourbir la reine. Hein. » Mais aujourd'hui, il existe des techniques de stéganographie et de cryptographie hyper sophistiquées. On peut cacher des messages dans des sons, on peut cacher des messages dans des images.
C'est ce que vous faites, là, parce que chaque fois que vous bougez, vous grincez.
On entend ça, le petit couinement.
Mais je pense que vous envoyez des messages codés.
À l'insu de mon plein gré, alors. En tout cas, la stéganographie contemporaine, ça, c'est un truc pour David Castello-Lopez. Mais moi, je me suis renseigné, je n'y comprends rien. Voilà.
Merci, Clémentine. En tout cas, cette pauvre et infortunée reine Marie Stuart qui aurait dû se méfier de son code.
La pauvrine. Vous restez avec nous, Clémentine. Le quiz va vous opposer à Stéphane. Beaucoup de couinements en perspective, mais pas du même ordre.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
L'heure est venue, Stéphane, ou plutôt, comme dirait feu votre ami Karl, es ist nun an der Zeit, c'est ce que j'ai trouvé sur Google Traduction, l'heure d'affronter la redoutable Clémentine Portier-Kaltenbach dans l'épreuve du quiz. Qu'est-ce que lui dirait Karl avant d'ouvrir les hostilités, Stéphane ?
Bonne chance à tous et que le meilleur gagne.
Bonjour à Bern to be alive. Stéphane, première question, elle est pour vous. Quelle est votre princesse préférée ? Moi, c'est celle-ci. Stéphanie de Monaco, fille cadette de Régnier III et de Grace Kelly, l'ouragan ne tourne pas dans le même sens s'il est situé dans l'hémisphère nord ou dans l'hémisphère sud, vrai ou faux ?
Oh là là !
Ah,
ah non mais attendez, moi je veux bien répondre aux questions de
princesse. Ascenseur, vous croyez qu'on partait sur les princesses, que ça allait être facile et tout à coup on dévie sur l'ouragan.
Vous brouillez les pistes.
Mais comme nos personnages. L'ouragan ne tourne pas dans le même sens dans l'hémisphère nord ou l'hémisphère sud.
Il n'y a aucune raison qu'il change de sens.
C'est le sens des aiguilles d'une montre, non ?
Écoutez, je vais dire non.
Vous avez perdu.
Balèze en princesse, un peu moins.
En ouragan.
En ouragan. Alors, oui, écoutez, c'est étonnant. C'est mais étonnant, l'ouragan quoi. Tourne dans le sens des aiguilles d'une montre dans l'hémisphère sud et l'inverse dans l'hémisphère nord. Et sachez qu'un ouragan ne peut pas traverser l'équateur. Top ! Il s'arrête, comme un mur. Comme il ne peut pas tourner dans le même sens, vous comprenez ? C'est fou. Fascinante nature.
C'est
question
incroyable.
Numéro 2 pour vous, Clémentine Portier-Kaltenbach. Ferdinand Lope restera dans l'histoire des institutions françaises comme l'éternel candidat burlesque à l'élection présidentielle. Il faisait des propositions totalement insolites, tellement insolites qu'il sera le premier à inscrire dans un programme électoral l'abolition de la peine de mort. Vrai ou faux ?
Je crois que c'est exact. Il me semble avoir lu ça naguère dans un livre de Bruno Fulini consacré aux candidats pittoresques aux élections
qu'on embrasse,
présidentielles.
C'est un de nos meilleurs invités.
Donc je pense que c'est vrai.
Vous avez...
Bruno, si tu nous écoutes, désolé d'avoir associé ton
j'ai
nom
ton
à cet
livre
échec.
De travers.
Oui, faux. En revanche, Ferdinand Lope voulait construire un pont de 300 mètres juste pour mettre des SDF en dessous et créer une pension pour la femme du soldat inconnu, entre autres propositions comiques. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Il va falloir un peu remonter le niveau, on est à 0
points. Oula, on est mauvais là, Stéphane.
Question numéro 3. En 1854, à Londres, il y a 3 millions d'habitants, mais les épidémies font rage, les cimetières débordent, les cadavres ressortent de la surface par temps pluvieux. Quelle horreur. Du coup, on crée une ligne ferroviaire spéciale pour enterrer les corps plus loin, ainsi que pour faciliter les visites des familles des défunts. Vrai ou faux ?
Bon. 1854 ?
C'est la pleine période de des chemins de fer. Enfin, on commence à planter des
chemins de fer. On aurait curé les cimetières en transportant par le train les dépouilles des morts des cimetières londoniens ?
C'est précisément ma question. Ouais.
Mais pour les mettre où ?
Plus loin.
Plus loin, en dehors de la ville ?
Dans le Sussex, certainement.
Je dirais oui.
Vous avez gagné !
C'est gagné, Stéphane. Ça avait même un nom, la Necropolis Railway. Il faut 40 minutes pour arriver à la tombe. La population grince des dents, car normalement, le dernier voyage se fait en calèche. La ligne devait servir pour 5 millions de morts. Ça sera finalement le cas pour 200 000 personnes, car rapidement, les engins motorisés vont jouer ce rôle. Question numéro 4 pour vous, Clémentine Portier-Keltenbach. Parlons de saints avec vous. Les Amazones apparaissent au 8e siècle avant Jésus-Christ dans l'Iliade d'Homère. Elles n'avaient pas le sein coupé, contrairement à ce qu'on a longtemps cru. C'est un historien grec qui a lancé cette rumeur parce qu'il trouvait que Amazone ressemblait à A-Mazos, qui signifie sans sein en grec. Vrai ou faux ? Question pointue.
Oui, on raconte que les Amazones, en effet, se coupaient un sein pour pouvoir tirer à l'arc.
Alors, exactement.
Est-ce que c'est un auteur qui aurait extrapolé le mot grec dans son propre récit ? C'est possible. C'est bien possible. Je vais répondre vrai.
Vous avez gagné !
Et ça m'arrange, puisque ça nous amène à l'égalité. C'est une bonne réponse, Clémentine. C'est comme ça que le mythe de l'Amazone est né. Ceux qui pratiquent le tir à l'arc, qui sont également des femmes, savent très bien qu'un sein ne gêne en rien pour atteindre une cible quand on tire à l'arc. Question numéro 5, elle va vous départager. C'est une question de rapidité. Et vous êtes tous les deux très vifs, donc attention dans les starting blocks maintenant. En 1933, l'explorateur hongrois Laszlo Amasi parcourt le Sahara en plein désert. Il cherche une oasis légendaire. À la place, il tombe sur une grotte. Quelle n'est donc pas sa surprise ? Que voit-il comme dessin sur les murs ? Des hommes avec une multitude de points blancs, on devine que c'est de la neige ? Des gens qui nagent alors qu'on est au cœur du Sahara ? Ou il voit sur les murs les noms de ceux qu'on aime ? Des hommes avec une multitude de points blancs. De la neige pour Stéphane. De l'eau
et des
pour
gens
Clémentine,
qui nagent,
Partie-Keltenbach. Alors Stéphane, d'après vous, il y aurait de la neige au Sahara ?
Ça arrive,
la neige au Sahara, oui. Même il y a très longtemps. C'est une bonne réponse de Clémentine Portier-Keltenbach. Des gens qui nagent, les peintures ont 8000 ans. Et effectivement, dans ces montagnes égyptiennes, il y avait des lacs et des forêts il y a 10 000 ans.
Je suis sûr qu'il y avait aussi de la neige un jour.
Alors ça, Stéphane, non, ce n'est pas prouvé. Il n'y avait pas de la neige,
mais
il y avait
neigé sur Yesterday.
Il l'a neigé sur Abu Simbel, je ne suis pas sûr.
Sur le mont Atlas, il a bien neigé. Ouais,
c'est possible, mais nous vérifierons ou pas. Victoire de Clémentine Portier-Keltenbach.
Oui.
Bravo.
16h-18h sur Europe 1.
Historiquement vôtre.
Cet après-midi dans Historiquement vôtre, ils ont brouillé les pistes de leur propre vie, Stéphane.
Après Karl Lagerfeld, le roi de l'autofiction et narrateur de sa propre existence, je vous raconte la plume et femme de lettres Marguerite Duras, qui a elle aussi romancé sa vie.
Mais tout de suite.
Il est 17h sur Europe 1.
L'heure de faire un détour par la rédaction d'Europe 1 pour le Flash.
Bonjour à tous. Gérald Darmanin en Gironde cet après-midi où deux incendies sont toujours en cours. 2700 hectares sont partis en fumée. À Landiras, à une quarantaine de kilomètres au sud de Bordeaux et à la Teste de Buch, près de la dune du Pilat, 6000 campeurs ont dû être évacués dans cette zone. Près de 800 pompiers sont mobilisés sur ces deux incendies. Des feux favorisés par la vague de chaleur que l'on subit. En ce moment, 7 départements placés en vigilance orange canicule. La Gironde, le Lot-et-Garonne, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, le Tarn, l'Ardèche et la Drôme. Conséquence, le numéro vert Canicule Info Service est réactivé. Aujourd'hui, joignable au 0800 06 66 66. Dans les aéroports, les hôtesses et stewards de Transavia en grève aujourd'hui jusqu'à dimanche. 15% des vols sont annulés ce mercredi dans toute la France, dans la compagnie low cost d'Air France. Il passe de 1302 à 1329 euros par mois. Le SMIC augmenté automatiquement de 2,01% le mois prochain, en plus des 2,65% au mois de mai, conséquence des chiffres de l'inflation qui sont tombés ce matin. Selon l'INSEE, elle atteint 5,8% sur un an au mois de juin. Le taux du livret A pourrait aussi augmenter au 1er août, selon le gouverneur de la Banque de France, en passant de 1 à 2%. Dans l'actualité aussi, c'est le jour J après le fiasco de la finale de la Ligue des Champions au Stade de France le 28 mai dernier. Le Sénat a remis son rapport et pointe un enchaînement de dysfonctionnements et de défaillances dans la préparation de l'événement. Les présidents des deux commissions demandent maintenant à Elisabeth Borne et Emmanuel Macron de s'exprimer sur le sujet. Le parquet de Paris annonce l'ouverture d'une enquête pour harcèlement et agression sexuelle contre l'insoumis Éric Coquerel. Une plainte avait été déposée contre lui la semaine dernière. Pour sécuriser tous les événements organisés demain pour les festivités du 14 juillet, les forces de l'ordre seront sur le pont. 125 000 policiers et gendarmes seront mobilisés, annonce Gérald Darmanin dans un télégramme adressé notamment aux préfectures. Trois références de croquettes pour chats de la marque Purina font l'objet d'un rappel. Elles pourraient contenir des traces d'un résidu issu du traitement d'eau utilisé par l'un des fournisseurs d'ingrédients. Des cas d'infection auraient été constatés chez certains chats, dont certains sont décédés.
Partageons la passion du vélo et encourageons les coureurs avec Total Energy. Tout de suite, le point étape.
Sur le Tour de France, on vous retrouve Axel May, 11e étape aujourd'hui. Ça y est, les coureurs sont arrivés il y a quelques minutes et on a un nouveau maillot jaune.
Oui, je pense que c'est l'information de 17h ce soir, c'est qu'on a un nouveau maillot jaune. Pensez donc dans ce terrible col du Granon. En 1986, Bernard Hinault avait perdu son maillot jaune. Cette fois, c'est Pogacar qui perd son maillot jaune au profit de celui qui était son plus dangereux concurrent jusqu'à présent. Vingegaard, le jeune Danois, a attaqué un peu plus de 4 km de l'arrivée. Il a laissé tout le monde sur place, il a rattrapé les échappés. Vingegaard qui gagne pour la première fois une étape du Tour de France. Et quelle étape, il s'impose devant Quintana le Colombien, devant Romain Bardet, devant Geraint Thomas, devant David Gaudu. Pogacar n'est que 7e de l'étape. Et au classement général, eh bien, cela veut dire que Vingegaard, ce soir, après 11 étapes, à 2 minutes 16, c'est énorme, d'avance sur, même pas sur Pogacar, sur Romain Bardet. Oui, vous avez bien entendu, Romain Bardet est le nouveau deuxième du classement général. Pogacar est à 2 minutes 22 de Vingegaard, alors que demain, il y a encore une terrible étape qui attend les coureurs avec la montée vers l'Alpe d'Huez. Ce qu'on retiendra, c'est donc Bardet, deuxième du classement provisoire, et Vingegaard, nouveau maillot jaune, tandis que Pogacar est troisième.
Merci beaucoup, Axel. Vingegaard, grand gagnant de cette 11e étape du Tour de France.
Europe 1.
Il est 17h04 sur Europe 1. Historiquement vôtre, ça reprend.
(rire) 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous êtes au cœur d'Historiquement vôtre, deux heures au service de votre culture j'ai, mais aussi de votre bonne humeur, en compagnie de cet animateur si jovial qu'il serait capable de redonner la banane à un soldat napoléonien à qui il vient d'annoncer...
Il faut amputer.
Magique, vous êtes magique Stéphane.
Oh, vous aussi Mathieu, quoique dans une autre acception du mot. Ravi en tout cas de vous retrouver pour cette deuxième heure d'Historiquement vôtre, consacrée aujourd'hui à ces personnages qui ont brouillé les pistes de leur propre vie. Après Karl Lagerfeld, avec qui on a passé un moment délicieux, je vous propose de découvrir l'histoire de Marguerite Duras, qui, elle aussi, vous allez voir, a su embrouiller les pistes de sa vie. Quant à vous, Mathieu, vous nous brosserez le portrait risqué d'Amanda Lear, qui ne manque pas un numéro d'Historiquement vôtre. Donc vous marchez sur des œufs.
Et marcher sur des œufs avec des gros sabots, ce n'est pas simple, Stéphane. Oui, je tâcherai de démêler les fils de la vie romanesque d'Amanda Lear. Amanda qui a passé sa vie à démentir certaines rumeurs insistantes dont elle n'était même pas complètement à l'origine. Et puis, Stéphane, nous ne sommes pas seuls dans ce studio. Deux superbes spécimens de chroniqueurs qui d'ailleurs plairaient beaucoup à Amanda sont à nos côtés.
Oui, enfin bon, je fais pas dans le recyclage, Coco. Si je peux avoir une première main, ça serait plus cool.
Oh. À commencer par ce journaliste franco-portugais qui nous trouve parfois un peu trop dans l'approximation, un peu trop brouillon. Alors, il a décidé désormais de se lancer lui-même. Voici...
David Castello Lopez.
Chaque jour, vous remontez aux origines d'une invention qui vous tient à cœur aujourd'hui.
Tout à fait. Aujourd'hui, c'est la tétine. La tétine, ce petit objet pour que les bébés y se taisent. Je vous dirai d'où ça vient. Et aussi l'actualité de la tétine.
Ah, parce que la tétine a une actualité. C'est vraiment étonnant.
Il a pris le train récemment et il y a un bébé hurlé à côté de lui.
Oui, ça doit être ça l'actu. Olivier Pouls est avec nous et pour une fois, alléluia, il n'est pas venu seul pour nous raconter l'histoire d'un produit.
Je ne suis surtout pas venu les mains vides. Je vous ai apporté un morceau de délicieux gruyère. Oh. Mais alors le vrai, l'authentique, le suisse. Enfin, puis-je rencontrer son origine surtout et une recette à base de gruyère.
J'espère bien. Enfin, c'est un moment de l'émission à l'issue duquel on entend rarement
David Castello-Lopez,
sachant que c'est plutôt moi qui gagne en général. Ça sera la lutte finale, ce délectable quoique fratricide quiz. Mais pour l'heure, découvrons la vie, Stéphane, de notre deuxième personnage à avoir brouillé les pistes. Stéphane Bern nous raconte Marguerite Duras.
Europe 1. 16h-18h. Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Elle a pris des masques à une époque où l'on n'en portait pas. Elle s'est cachée derrière les lignes de ses livres dans lesquels elle racontait sa vie ou une vie qui n'était peut-être pas toujours la sienne. Stéphane Bern nous raconte celle qui a brouillé les pistes pour mieux séduire Marguerite Duras.
L'histoire de ma vie n'existe pas. Voici ce que Marguerite Duras écrit dès le début de son livre « L'amant » qui, après sa parution et l'obtention du prix Goncourt en 1984, a fait d'elle une véritable star de l'édition. Dans un entretien, elle précise sa pensée. « Le roman de ma vie, oui, pas l'histoire. Il y a donc bien une différence entre l'histoire vécue et écrite. Et c'est justement cette distinction que Marguerite Duras estompe et brouille, alimentant les interrogations sur les réalités et les fantasmes du récit de sa propre existence. Je n'ai rien à dire sur moi, a-t-elle assuré. Ce sont pourtant bien son histoire et ses souvenirs que l'on retrouve à travers toute son œuvre, qu'il semble donc impossible de dissocier de sa vie. Sa vie débute en 1914 dans l'Indochine française. Marguerite passe une enfance et une jeunesse d'européennes pourtant très proches de ceux que l'on nomme alors les indigènes, suivant d'une famille errante entre ville et rizière, engluée dans des relations complexes sinon vénéneuses qui seront le terreau de sa littérature. La mère, comme elle la désigne souvent dans ses écrits, à la fois valeureuse et lâche, et dont Marguerite n'hésite pas à enjoliver le côté aventurière, prend toute la place et efface totalement la figure du père disparu trop tôt. Son enfance semble faite de traumatismes et de misères, néanmoins mêlée à une grande liberté dans la découverte. Arrivée à Paris à 18 ans, c'est bien en France que Marguerite fait sa vie, mais elle y traîne les fantômes de ses bords du Mékong, baignés dans la lumière, la torpeur et les odeurs, qu'elle ne cessera de convoquer pour écrire un passé qui la poursuit. Son premier livre, paru chez Gallimard en 1940, sous son vrai nom de Marguerite Donadieu, alors qu'elle travaillait au ministère des colonies, n'a rien de la production littéraire qui sera ensuite la sienne. Si l'Asie y est bien présente, c'est pour vanter les mérites de l'Indochine française à coup d'arguments colonialistes imprégnés des préjugés de son époque. Cet ouvrage, l'Empire français, elle le reniera au point de le faire effacer de sa bibliographie. Ce qui ne l'empêche pas de s'en prévaloir quand elle cherche à faire publier son premier roman. Il faut attendre la guerre d'Algérie et la construction d'une autre conscience politique pour que Marguerite devienne une farouche anticolonialiste. Ceci est à l'image de sa personne, pleine d'ambiguïté, de vérité qui se succèdent ou parfois se contredisent. Ambiguë, comme l'est son rôle durant l'occupation, allant d'une passive compromission à la résistance. S'il n'est pas anormal qu'une jeune fille de son temps tergiverse avant de s'engager clandestinement contre l'ennemi allemand, par la suite, Marguerite Duras minimisera toujours son rôle au sein d'une commission du livre sous surveillance allemande, chargée de distribuer le papier aux éditeurs. Petite secrétaire, selon elle, il semble qu'elle ait assumé de réelles responsabilités dans cette instance, au moins jusqu'à la fin de 1942. C'est l'année suivante qu'elle s'engage dans la résistance et qu'elle publie d'ailleurs son premier roman, « Les Impudents », sous le pseudonyme de Marguerite Duras, du nom du village de la famille paternelle. Dès lors, elle ne cesse d'écrire. En 1950, Duras frôle le prix Goncourt avec son roman « Un barrage contre le Pacifique » qui raconte une jeunesse en Indochine, les luttes d'une mère contre l'autorité coloniale et l'océan qui envahit ses plantations. On y trouve aussi le personnage de l'amant, de l'homme riche qui marque pour la jeune fille la découverte de l'amour, de la sensualité, de l'abandon aussi. Cette figure de l'amant, on la retrouve ensuite 34 ans plus tard dans le roman éponyme, puis dans sa réécriture, L'amant de Chine du Nord. Ce cycle, si l'on peut le nommer ainsi, participe beaucoup au débat sur la part de réalité de fiction dans une œuvre clairement autobiographique. Les mêmes souvenirs s'écrivent différemment dans les trois ouvrages et laissent tout loisir aux spécialistes de pointer les dissemblances. Où se situe la frontière entre le vrai et le faux? A-t-elle seulement un sens? Car Marguerite Duras joue toujours sur la perméabilité comme elle joue sur l'hybridation dans certaines œuvres. notamment dans ses autres créations, elle qui monte aussi des pièces ou réalise des films, tel India Song en 1975, dans lequel on se perd entre littérature, théâtre et cinéma. Tout est brouillé. Duras y présente des personnages paradoxalement statiques, parlant comme des livres, alors que leurs lèvres ne bougent pas. Les dialogues sont intérieurs, décorrélés de l'image, et sont juxtaposés à une rengaine mélodique, quasi hypnotique. Réalisatrice, écrivaine, Marguerite Duras est aussi une témoin subjective de son temps, portée par de nombreux combats qui font d'elle une figure de l'intellectuel engagé. Avant la maladie et sa disparition en 1996, elle était devenue un mythe vivant, autant raillé que glorifié. Elle n'hésitait pas à avoir un avis sur tout et à perdre ses interlocuteurs dans des phrases parfois caricaturalement ésotériques. Pourtant, Duras, la femme de lettres, a développé un style personnel inimitable. Des phrases déstructurées, parfois lapidaires, des dialogues abrupts, des descriptions elliptiques, des cumuls de mots rythmés par une abondante ponctuation. Une écriture parfois proche de l'oralité. Et quand elle prend la parole justement, ce qu'elle fait beaucoup à la radio ou à la télévision, il y a cette façon unique de s'exprimer, ponctuée d'éloquents silences, comme une manière d'être souvent sentencieuse, irrévocable. L'élocution « toujours, jamais, en aucun cas, profondément, définitivement » reviennent sans cesse. Tout semble catégorique, quasi immuable. Ironique, pour celle qui, peu avare en intervention, arrive parfois à se contredire. Tout est valable dans l'instant où la chose est dite, mais seul l'écrit fait que la vérité existe. Dans ses romans ou récits, plus qu'un brouillage volontaire sur sa vie, il y a en fait une porosité, une confusion entre le réel et ce qu'elle en dit. Écrire est, pour reprendre les mots de sa biographe Laura Adler, une sorte d'élucidation de soi-même, ce qui explique que Marguerite Duras soit revenue à plusieurs reprises et avec différents mots sur les mêmes images et souvenirs, appuyant le doute quant à leur réalité. La seule vérité est celle de l'écrit. Rien n'est vrai dans le réel, rien, assure-t-elle. Au final, peut-on trancher entre ce qui est réel ou imaginaire dans l'œuvre de Duras ? Des biographes s'en sont chargés, avec beaucoup d'acuité. Des biographies que Marguerite Duras refusait de son vivant, se réservant à elle seule la faculté à écrire sa vie, forcément.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Marguerite Duras, nous avons le plaisir d'être avec sa biographe, justement, Stéphane. Bonjour, Laura Adler.
Bonjour.
Bonjour, Laura Adler. On va démêler le vrai du faux avec vous dans un très court instant. Oh yeah.
Chance his girlfriend came across a needle and soon she did the same. At home there are 70-year-old boys and their idea of fun is being in a gang called the Disciples, high on crack, toting a machine gun. Church and kill everyone inside. You turn on the telly and every other story is telling you somebody died. My sister killed a baby 'cause she couldn't afford to feed it, and it was sending people to the moon. In September my cousin tried reefer for the very first time. Now he's doing horse. It's June. Time.
be a star was fly, neighbors just shining home. But if a night falls and a bomb falls, will everybody see the dawn time?
D'avoir choisi Europe 1, c'était Prince.
16h, 18h sur Europe 1,
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre et nos personnages qui ont brouillé les pistes de leur propre vie continuent. On parle de Marguerite Duras avec notre invitée, la journaliste, productrice et biographe Laure Adler, Stéphane.
Oui, Laure Adler, vous connaissiez Marguerite Duras puisque vous avez entretenu des relations amicales avec elle pendant une douzaine d'années. Quel souvenir vous a-t-elle laissé ?
Le souvenir d'une écrivaine qui passe tout son temps, toute son énergie et toute sa vitalité à essayer d'écrire jusqu'à son dernier souffle. Mais surtout, ce que je trouve intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la jeune génération découvre avec extase et beaucoup d'émotion l'œuvre de Marguerite Duras. Ça leur parle, ça les émeut, ça les fait pleurer, ça les fait parler. Et je pense personnellement que c'est parce que dans son écriture, il y a quelque chose de l'ordre de la chanson populaire, de l'ordre de la ritournelle. Et je trouve qu'à l'intérieur de sa langue, qu'elle a épurée jusqu'au maximum, de ses phrases très courtes, des émotions très intenses qu'elle décrit, parce que c'est toujours l'amour dont elle parle, eh bien, il y a quelque chose de la rengaine populaire.
Et Laure Adler, vous lui avez consacré, on l'a dit, une biographie très riche, parue en 98, soit deux ans après sa mort, et basée notamment sur vos échanges. Elle savait que vous travailliez sur ce projet. Comment vous avez tissé une relation de confiance avec elle à la base ?
Alors moi, je l'ai connue d'abord en tant que petite journaliste. Je n'étais pas une fan absolue de son œuvre, d'ailleurs. Mais en tant que journaliste littéraire, je lui ai demandé un entretien. Elle a accepté, on est devenus camarades assez rapidement, et puis j'ai continué à la voir, à la lire. C'était devenu une obsession très compliquée pour moi, parce que quand elle sortait un bouquin, elle en sortait à peu près un tous les ans, elle me le faisait envoyer par coursier chez moi, et à 2h du matin, elle m'appelait au téléphone en me disant « Alors, tu m'as toujours pas appelé ? C'est pas bien alors mon bouquin, c'est pas bien, il ne plaît pas de mon bouquin. » Donc c'était... ensuite, c'est devenu quelqu'un de profondément inscrit dans mon existence. Et ensuite, des années plus tard, je suis allée la voir pour lui demander si je pouvais écrire un livre sur sa vie. Elle m'a dit d'un ton las et fatigué « Écoute, essaye, essaye. » Et voilà comment ça a commencé. Mais j'avoue que le livre a eu beaucoup de péripéties, puisque quand il a été terminé, j'ai reçu un coup de téléphone d'un bibliothécaire qui m'a dit « Tu mets tout à la poubelle parce que son fils vient de donner tous les journaux intimes et des documents inédits sur Marguerite et tu vas être dans l'obligation de recommencer le bouquin. » Et effectivement, grâce à la gentillesse de son fils, j'ai pu avoir accès à l'intimité de Marguerite Duras et à ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire ses propres ambiguïtés.
Vous écrivez d'ailleurs que Duras a pris tant de masques qu'elle a réussi à nous faire croire à ses propres mensonges. Comment est-ce que vous avez réussi à démêler le vrai du faux, notamment quand elle raconte dans L'Amant l'éveil du désir à l'adolescence et son amour fou pour un homme plus mûr ?
Ah ben moi, je suis une midinette, hein. Je crois en l'amour, donc je crois à ce qu'écrit Marguerite Duras, mais comme je suis quand même pragmatique et réaliste, et que je me devais d'essayer d'apporter une vérité, je ne dis pas la vérité, je suis allée au Vietnam, j'ai fait tout le parcours, j'ai passé des semaines et des semaines Enfin, j'ai vraiment essayé de comprendre comment, dans l'esprit de Marguerite Duras, un tout petit peu de réalité pouvait irriguer un imaginaire très riche. Et je crois que Marguerite, quand elle était jeune, ce qu'elle raconte dans L'Amant, elle a vécu des choses très difficiles quant à sa sexualité. Sa mère a essayé de la vendre. Son frère a essayé de la vendre pour pouvoir avoir de l'argent et continuer à se droguer. Et je pense que Marguerite Duras a revisité les malheurs de sa jeune existence pour en faire une sorte de légende qu'elle nous a léguée.
Quand on travaille comme vous sur le personnage de Marguerite Duras, on découvre une femme très différente. L'image que vous avez d'elle a changé au cours de votre travail ?
Oui, l'image a beaucoup changé. D'abord parce que je me suis aperçue qu'il y avait toutes les souffrances d'une toute jeune fille qui avait la certitude qu'elle allait devenir, non pas quelqu'un, parce qu'elle n'avait pas une ambition particulière, mais qu'elle voulait devenir quelqu'un qui comprenne la réalité qui l'entoure, quelqu'un qui croyait en la langue française, quelqu'un qui était pétri de l'amour de la grammaire française et qui voulait se cultiver. Et c'est pour ça qu'elle a supplié sa mère de partir de l'Indochine pour aller faire des études à Paris, à la Sorbonne. Et ensuite, son sort a changé grâce à l'amour, puisqu'elle a rencontré un type extraordinaire qui s'appelle Robert Antelme, qui est un des plus grands écrivains de l'après-Shoah et qui a écrit un livre magnifique sur cette expérience qu'il a vécue, hélas, puisqu'il a été arrêté par les nazis et qu'il a vécu dans un camp et qu'il a survécu par miracle. Mais Robert Antelme a été très important dans la détermination de Marguerite Duras pour continuer à croire un peu en elle-même, parce que, comme vous le racontiez vous-même, quand elle publie son premier livre en 1940, moi, j'ai retrouvé des documents intimes de Marguerite Duras où elle envoie des lettres à son ami Queneau. Queneau était un ami de son mari, Robert Antelme. Queneau faisait la pluie et le beau temps chez Gallimard. Et elle envoie des lettres à Raymond Queneau en lui disant « Si vous ne publiez pas, je me suicide ». Eh bien, évidemment, Queneau l'a suicidé. Queneau l'a publié pour qu'elle ne se suicide pas, pardon. Mais par contre, les deux premiers livres n'ont eu aucun succès. Aucun. Donc, vraiment, la bombe nucléaire de la reconnaissance de Marguerite Duras, ça a été L'Amant.
Ben merci beaucoup, Laura Adler, de nous avoir éclairé sur la personnalité complexe de Marguerite Duras. Et je rappelle évidemment à nos auditeurs qu'ils peuvent lire la biographie que vous lui avez consacrée et qui est évidemment disponible chez Gallimard. Merci beaucoup, Laura Adler.
Merci à vous.
Merci à vous.
Europe 1, historiquement vôtre.
Aujourd'hui, historiquement vôtre est donc consacré à ces personnages qui ont tenté de brouiller les pistes de leur vie. Après Marguerite Duras et Karl Lagerfeld, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'une artiste plus proche de nous qui, elle, joue encore à brouiller les pistes.
Oui, elle a lu Marguerite Duras et elle s'habille souvent en Lagerfeld. Et comme elle a joué à brouiller les pistes, je reviens sur le destin d'Amanda Lee.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages qui ont tenté de brouiller les pistes de leur propre vie. Après Marguerite Duras et Karl Lagerfeld, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'une artiste qu'on adore et qui, vous en êtes en tout cas persuadé, vous adore aussi, Amanda Lear.
Oh oui, vous savez, je suis quelqu'un de très attachant, Stéphane, et je crois, oui, qu'Amanda Lear m'apprécie. Elle me témoigne en tout cas une certaine affection, comme le prouvent ses derniers mots à l'issue de notre dernier échange téléphonique en 2020.
Moi aussi, mon petit Mathieu, je vous fais plein de poteaux virtuels.
Bon, le technicien m'a dit qu'après avoir raccroché, elle avait ajouté...
En fait, c'est qui ce Mathieu Noël ? C'est pour RTL, c'est ça ?
Oui. Avec Amanda, on s'adore. Et ce que j'adore chez Amanda, c'est justement cette dimension énigmatique que, ne vous y trompez pas, elle a savamment construite. Pour être aujourd'hui en termes de mystère à peu près entre Dieu et les Daft Punk. On peut commencer par son âge. Amanda n'a jamais refusé de donner la date, sauf qu'elle n'a jamais donné deux fois la même date. À force de donner des fausses dates de naissance, j'ai fini par complètement oublier la vraie. C'est un chiffre, on s'en fout, tranchait-elle en 2019. Elle a raison. On s'en fout, d'autant qu'elle n'est pas la seule star à mentir sur son âge. Que n'ai-je entendu ici même la semaine dernière ?
T'as quel âge aujourd'hui, mon petit coco ?
40.
40 ?
Amanda Lear n'a pas d'âge, mais elle est bien née quelque part, me direz-vous. Bon, ça aussi, ça se discute. D'après certaines biographies, elle serait née le 18 novembre 1939 à Saïgon. Mais d'autres disent plutôt en 1950 et au Vietnam. Et puis, Amanda tente tente de reprendre la main sur ses biographes en annonçant qu'en fait, non, réflexion faite, elle est née, je la cite, oui, en 1946 à Hong Kong. Pardon, j'ai dit Hong Kong, je voulais dire Londres. Je suis né à Londres, je confonds toujours Londres et Hong Kong. Mais ses parents alors, on sait qui c'est ? Oui, enfin, là aussi, il y a plusieurs scénarios. Globalement, Amanda serait le fruit de l'union d'un marin anglais et d'une femme franco-orientale ou russo-asiatique. La seule chose dont Amanda est sûre, parce que ça déparerait dans son CV d'icône glamour, c'est qu'elle n'est pas née en Isère d'un père cheminot et d'une mère employée des postes. Ça, on en est sûr. Puis, il y a bien sûr la rumeur tenace qui fait pouffer Stéphane et selon laquelle elle ne serait pas née Amanda, mais Amando. Une rumeur dont nous allons voir comment elle est née et surtout qui l'a lancée. D'abord, un mot des débuts d'Amanda. 16 ans, déjà aimantée par le monde artistique, elle s'inscrit au St. Martin's College de Londres. À 18, elle est repérée par Paco Rabanne qui la félicite, je cite, « pour son physique particulier ». Ça va que c'était Paco Rabanne, sinon il en prenait une. Amanda devient donc mannequin. Dans les années 60, elle rencontre Salvador Dali, qui fait d'elle sa muse et sa maîtresse. Une relation qui va durer 15 ans. Et c'est Salvador Dali, immense peintre, mais aussi immense génie du marketing, qui va lancer la rumeur Amando. Le but, booster la carrière de sa muse. Amanda raconte, il m'a dit que j'étais une chanteuse plutôt médiocre, qui n'avait guère de chance de casser la baraque. Il fallait donc trouver un palliatif complémentaire à ma seule musique pour tenter de drainer l'attention du public et réussir à écouler mes disques. C'est ainsi que nous avons échafaudé le personnage innovant d'Amanda Lear en le transformant en un truc aussi intrigant qu'ambigu. Et ça a super bien marché. Effectivement, ça fait 50 ans et le monde entier continue de se demander si quand même à un moment Amanda Lear n'a pas été un petit peu un homme. Amanda elle-même est dépassée par la curiosité que sa supposée transsexualité suscite. À l'époque, ça a fait beaucoup jaser et j'ai même dû poser à poil, se souvient-elle. Il y a eu des savants italiens, quand ils ont vu mes photos dans Playboy, ils ont agrandi sur un écran mes poils du cul, sic, pour regarder si l'implantation allait en avant, en arrière, j'ai rien compris. C'est pour vous dire à quel point les gens faisaient une fixette là-dessus. En 1980, elle devient une superstar en Allemagne et en Italie avec son premier album baptisé « I am a photograph ». Elle vendra plus de 20 millions d'albums durant sa carrière, devient animatrice télé à succès en France et aussi en Italie car elle est totalement bilingue. En 86, Amanda Lear bosse pour la 5 de Silvio Berlusconi. Elle fréquente aussi à l'époque l'ex-couple Trump, Donald étant avec Ivana. Et là, petit fun fact qui est aussi, si on y réfléchit, un Burke fact. Donald, toujours pudique, lui confie qu'avec sa femme, ils adorent faire l'amour sur ses chansons. Ivana aurait même été plus précise selon Amanda. Ivana m'a confié que chaque fois que Donald voulait faire l'amour avec elle, il mettait mon premier CD, Follow Me, ça l'excitait. Il ne pouvait tirer Ivana qu'en écoutant Amanda. Là, on va faire un truc, je vais vous demander de fermer les yeux, d'écouter la voix d'Amanda et de visualiser Donald sur Ivana ou Ivana sur Donald. Hein, on n'est pas bien là ? C'est beau, hein ?
C'est différent. Bref,
c'est différent. Derrière cette carrière disco, glamour, people, Amanda Lear est en fait une femme qui aime la solitude de sa maison provençale. C'est là qu'elle vit désormais avec ses chats, là qu'elle était confinée en mars 2020, date de notre dernière interview, où elle s'ouvrait à moi sans tabou.
Les chats sentent votre état de santé. Ils se collent à vous en ronronnant, ils essayent de vous enlever la fièvre. Je dois tout à ma chatte, c'est vrai.
Plus les années passent, moins la solitude lui fait peur. Elle, qui a perdu son mari dans un terrible incendie en 2000, a décidé de ne plus jamais s'engager. Elle continue donc de papillonner, elle peint aussi.
Écoutez, je suis tellement bien chez moi, je peins. Bon, je m'occupe, je m'ennuie pas une seconde. Hein. Des hommes nus, enfin maintenant de mémoire.
Et puis, elle a un nouveau hobby, Amanda. Beach. Concernant le biopic sur Dali qui devrait sortir l'année prochaine, son bilan est sans appel. Elle déclare au magazine Téléstar, Ben Kingsley qui joue Dali avec perruque et moustache, c'est ridicule. Et je ne vous parle pas de ce mannequin australien de 2 mètres qui est censé être moi, on dirait une prostituée ukrainienne. Ah ça, Amanda n'est pas du genre à mâcher ses mots, on l'embrasse fort. À cette heure-ci, elle doit être en train d'arroser ses plantes.
Avec un gros tuyau.
Oh Stéphane, c'est malin, quelle classe. Et puis... comme en bossant sur ce portrait, j'ai découvert un petit bijou caché d'Amanda, je tenais à le partager avec vous. Ça s'appelle Pip Pip et ça date de 1972. Il faut bien connaître l'anglais, hein, sinon ça peut prêter à confusion. Ouais. Mais Pip Pip, ça veut dire quoi, David ?
Ça veut dire regarder, regarder.
Ouais, ça veut dire regarder, mais jeter un œil. Un peu coquin d'ailleurs.
Un peu coquin, mais les Pip
Show.
Le Pip Show.
Ouais.
Ah, voilà. Merci beaucoup, Mathieu.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour, ces personnages de l'histoire qui avaient brouillé les pistes de leur propre vie.
Oui Stéphane, tout l'inverse de nos chroniqueurs qui eux jouent franc jeu, nous révélant chaque détail de leur vie en allant parfois un peu loin à l'heure du goûter comme David quand il nous a racontait l'autre jour cadeau, il adorait regarder ses spermatozoïdes au microscope. Mais justement, quelle est cette odeur? Ça ne serait pas... Ah non, c'est bon, c'est du gruyère. Olivier Pouls nous a apporté un petit cadeau aujourd'hui.
Oui, un délicieux gruyère. Ouais. Bah, celui-là, on peut aussi le regarder au microscope, mais vous verrez, ça bouge beaucoup moins. Mais c'est très bon.
Le gruyère suisse, d'où vient-il? De Suisse, c'est déjà la réponse, mais restez avec nous quand même.
Mais tout de suite, eh oui, on accueille David Cassel-Lopez, des origines de la tétine.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui dépoussière l'histoire continue avec David Cassel-Lopez. Chaque jour, David, vous remontez pour nous aux origines d'une invention qui fait notre quotidien. Aujourd'hui, c'est le quotidien des parents, c'est la tétine.
Tout à fait, c'est celui des bébés aussi.
Bon, bien sûr, bien sûr.
Moi, j'ai été un bébé sans tétine parce que mes parents ils considéraient que la tétine, c'était une façon de museler les bébés, ce qui n'est pas complètement faux. Mais ils se disaient que le fait de me museler m'empêcherait de développer des talents de communication et d'échange avec le monde qui étaient nécessaires pour réussir sa vie. Et donc, pas de tétine. Mais comme vous le savez, j'aime bien savoir de quoi je parle quand je fais mes chroniques. Et donc, pour préparer cette chronique, j'ai acheté une tétine et je l'ai testée. Et c'est très décevant. Hein. C'est très décevant. Je veux dire, c'est ni très agréable, ni particulièrement apaisant. C'est un vague goût de caoutchouc. C'est-à-dire, je comprends mal le succès de la tétine auprès des bébés. Mais bien sûr, ça ne m'a pas empêché de chercher pour vous les origines de la tétine. Bon alors moi j'ai jamais eu de bébé, mais à Skip, les bébés ils aiment bien mâchouiller des trucs et on le sait, les bébés ont toujours aimé mâchouiller des trucs. C'est dans l'ADN des bébés de mâchouiller des trucs et d'ailleurs si on leur donne rien à mâchouiller, ils s'auto-mâchouillent, soit les doigts, soit les pieds, soit les deux. Et donc depuis toujours, depuis bien avant l'invention de la tétine, on donnait aux bébés des trucs à mâchouiller et à sucer. Des bouts de torchons trempés dans du miel par exemple, ou juste dans de l'eau quand on n'avait pas assez d'argent pour acheter du miel. Des morceaux de bois, du corail. Et ces méthodes, elles avaient absolument toutes le même objectif, que les bébés y ferment bien bien leur gueule. Vous voyez. Et puis au tout début du XXe siècle aux États-Unis, il y a un pharmacien qui a eu cette idée de fabriquer une sorte de petite poche en caoutchouc, de petite téton synthétique, si vous voulez, à sucer. Et au bout de ce téton, il a mis un disque pour ne pas que le bébé, en sucotant, avale le morceau de caoutchouc. Ce qui, certes, aurait également pour effet de le calmer, mais d'une façon peut-être un petit peu trop définitive. La première tétine, elle date de 1901. Et assez rapidement, il y a eu des améliorations, notamment le petit anneau à l'arrière de la tétine qui permet d'arracher la tétine à l'enfant pour l'emmerder un petit peu. Vous voyez le petit truc qui pend là. Mais dès le début, il y avait des gens, c'est assez rigolo de voir ça, qui étaient contre la tétine et même des gens assez spécialisés dans l'enfance. En 1908, il y a un pédiatre renommé à New York qui a dit « Les bébés qui sucent trop deviennent systématiquement des masturbateurs ». Vous voyez, c'est pas vrai, hein. c'est vraiment pas vrai. Aucune corrélation tétine-masturbation. Et puis au fond, quand bien même, je veux dire, même si on pense que la masturbation est un crime, c'est quand même un crime sans victime, vous voyez, donc c'est vraiment pas grave du tout. Il y a des choses un peu d'un autre temps aussi qui sont rigolotes. Il y a un moment, la tétine, on mettait du plomb dedans parce que ça permettait de l'atteindre. Après, on s'est rendu compte que c'était mauvais pour la santé, en particulier pour celle des bébés. Aujourd'hui, la tétine, elle est quand même assez acceptée. Dans l'ensemble, il y a 75% des bébés en Occident auxquels on donne des tétines. Mais il y a aussi certains adultes qui utilisent des tétines. Et oui, en gros, deux types d'adultes. Les premiers, ce sont les gens qui sont touchés par ce qu'on appelle l'infantilisme paraphilique. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une paraphilie ?
Non.
Paraphilie, c'est le para en grec, ça veut dire à côté, c'est une attirance pour des pratiques sexuelles qui sont un peu déviantes par rapport à la norme. Par exemple, les gens qui adorent qu'on leur marche sur le visage, vous voyez, les gens qui ne peuvent être excités que par les femmes qui ont subi une amputation. Ça existe.
Ça, il y a vraiment
aussi
toutes les catégories.
Oui, il y a toutes les catégories. Et donc, parmi les paraphiles, il y a aussi les adeptes de l'infantilisme. Ce sont des adultes qui s'habillent en bébé, qui portent des couches, des tétines, donc de taille adulte. Il y a des tétines qui sont faites pour les adultes et qui aiment bien qu'on les punisse parce qu'ils ont fait des bêtises.
Absolument, Stéphane, dans son entourage, connaît des
non, mais je me suis demandé, vous allez dans une pharmacie et vous dites j'aimerais une tétine pour adulte.
Moi. Parce que je suis un paraphile infantiliste.
Bon, enfin, je pense bien qu'il y a d'autres magasins spécialisés qui doivent
venir. Et puis
maintenant sur internet, ça se passe très bien. Et l'autre catégorie d'adultes qui utilisent des tétines, ce sont les gens qui prennent de la drogue dans les rêves parties. Parce que les drogues qu'ils prennent, ces gens-là, elles ont souvent pour effet de faire grincer des dents incontrôlablement.
et la tétine permettent d'éviter ça un petit peu. Et il y a plein de photos, vous pouvez vérifier, de rave party avec des gens complètement comme ça qui ont des tétines dans la bouche pour ne pas trop grincer des dents.
C'est compliqué quand t'es complètement stone de penser à mettre une tétine.
C'est à l'avance, ils la mettent autour du cou pour machin. Et quant à moi, finalement, je pense que c'était une assez bonne idée de ne pas me donner de tétine parce que franchement, je veux dire, en termes de communication et d'échange avec le monde, je suis bien, non ? Voilà. Bon.
Vous êtes complètement bien, vous êtes hyper open. Mmh. C'est assez terrifiant quand même cette histoire de comment vous appelez ça ? L'infantilisme
paraphilique.
Paraphilique. Mmh.
Mais ne jugeons pas. Qui c'est pour juger ?
Je ne juge pas.
Merci beaucoup, David. On retrouve Les Origines en podcast et sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube et Dailymotion, évidemment sur le site europe1.fr.
Olivier Pouls, lui, ce n'est pas des tétines qu'il met dans sa bouche, mais du bon gruyère de chez moi, du gruyère suisse.
Et je me demande si la gastronomie paraphilique existe.
Oh bah c'est si, votre vie,
bien sûr, en tout cas. Bien sûr, des gens qui s'enduisent de nourriture, par exemple. Ah oui.
Ils mangent des choses.
Donc ils mangent quoi, Stéphane ?
Ça, c'est plus paraphilique.
Stéphane, il s'éloigne du micro pour dire des horreurs. Il est loin, il pense qu'on n'entend pas, mais après, je récupère ses sons, Stéphane.
Il y a
après.
Des gens qui mangent des choses bizarres aussi.
Ah oui, oui. Ah oui, on les embrasse, effectivement. Comment ça s'appelle, ça ? On les embrasse pas.
Qui mange quoi, justement ?
David, l'innocence.
Prenez un petit morceau de gruyère.
La scatophilie,
la coprophagie.
Voilà, ça sera l'objet d'une autre chronique, une autre fois, et peut-être pas à l'heure du goûter. Olivier Pouls, dans un instant, avec du gruyère. Ça, c'est bon.
16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre.
Historiquement vôtre, l'émission qui soigne vos neurones et vos papilles, grâce notamment à Olivier Pouls. Chaque jour, Olivier, l'histoire d'une recette, d'un produit, aujourd'hui, direction la Suisse.
Eh oui, la Suisse, grand pays de fromage, la tête de moine.
Grand pays tout court.
Oui, non, grand pays tout court, bien évidemment.
La Penzelle, c'est très bon,
bien sûr.
L'Étiva.
L'Étiva. Vous avez le Vacherin aussi, délicieux. Et puis, évidemment, le fameux Gruyère. Je vous en ai apporté, tenez, un beau gruyère de réserve, donc je pense qu'il a une vingtaine de mois, celui-là,
il doit être
magnifiquement affiné. Il y a le gruyère qui fait évidemment référence à un fromage de garde fabriqué dans le canton de Fribourg, dans le district de Gruyère, et dont l'utilité historique était évidemment de pouvoir conserver longuement le lait produit en été sous forme de fromage pour pouvoir en manger tout au long de l'année. Alors cette région est depuis toujours, en fait, réputé pour l'excellence des fromages qui sont produits. Il y a même une petite légende amusante qui raconte que l'empereur Antonin le Pieux serait mort en 161, donc ça remonte quand même, d'une indigestion de fromages de la région. C'est-à-dire que les fromages avaient déjà réputation et qu'on aimait les manger. Alors, on parle à partir du XIIe siècle, autour du prieuré de Rougemont, de fromage de gruyère. Le prieuré fournit les outils nécessaires à l'élaboration des fromages, tandis que les fermes d'alpage en altitude transforment le lait en fromage uniquement en période estivale. Pourquoi ? Parce que c'est à ce moment-là que le lait est le meilleur, parce que les vaches mangent de la bonne herbe grasse, des fleurs. Il suffit d'aller en Suisse en été pour voir le garde-manger qu'ont les vaches. Et évidemment, ces fleurs, cette herbe, elle donne un goût au lait caractéristique qui fait la qualité des fromages de gruyère.
C'est aussi parce qu'on en fait plus aussi du lait l'été, il me semble. Alors, les vaches, elles produisent ça,
Vaches en produisent un petit peu plus, mais surtout parce que le lait a une qualité organoleptique bien supérieure.
Une qualité, pardon ?
Organoleptique.
Vous apprendrez des mots compliqués, si vous voulez.
Vraiment, quel entourloupeur. Oui, bon, continuez.
Il est évidemment bien meilleur au goût, si vous préférez, que le lait qui est prélevé en hiver, au moment où la vache est à l'ensilage. Alors, en 1249, à Fribourg, on fait...
J'avais beaucoup de mots compliqué quand même pour moi aujourd'hui.
En silage, c'est quand elle mange le foin, tout simplement, ce qu'on a stocké en été. Bah oui, il y a plus d'herbe dans les montagnes, il y a de la neige. Vous devriez le savoir, on ne peut pas sortir les vaches.
Oui.
Et en 1249, à Fribourg, on fait état du commerce de fromage de gruyère. Il faut savoir qu'il faut 400 litres de lait pour fabriquer une meule de 40 kilos. Donc très vite, il va y avoir nécessité de regrouper les fermes et même les villages au sein de ce que vont devenir les coopératives. Et donc aujourd'hui, il y a encore beaucoup de coopératives en Suisse et dans la région de Gruyère qui produisent ces fromages. Au XVIIe siècle, il y a de nombreux fromagers suisses qui émigrent vers la France et notamment vers la Franche-Comté. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils apportent avec eux leur savoir-faire. Et c'est pour ça que le comté et le gruyère sont des cousins extrêmement proches, qu'on a d'ailleurs appelé longtemps le comté gruyère. Ils s'appelaient de la même manière, on appelait le comté de gruyère. Et puis, on continue à faire du gruyère en France. Il y a même une indication géographique protégée d'un gruyère qui est différent, qui est honnêtement un peu moins goûtu, un peu moins bon. Et vous savez la grande différence entre le gruyère français et le gruyère suisse ? Eh ben oui.
Il n'y a pas de trou dans le gruyère, dans le vrai gruyère.
Dans le vrai gruyère suisse, il n'y a pas de trou, alors qu'il y a des petits trous dans le gruyère français. Alors, une petite recette, si on a juste 30 secondes, des petits muffins au gruyère.
Mmh. Oh,
délicieux pour l'apéritif. 2 œufs, 200 g de fromage blanc, 15 g, une belle cuillère de crème fraîche, 60 g de farine.
Oh,
attendez, c'est pas fini, un peu de levure.
C'est
100 g de gruyère râpé. Ouais, et alors, une petite cuillère de moutarde pour rehausser le goût.
Oui.
Ça marche pas mal. On mélange les œufs, on peut même monter les blancs en neige, le fromage blanc, la crème fraîche. On ajoute la levure, la farine, le gruyère et la moutarde. On sale, on poivre, on verse dans des petits moules à muffins et on cuit ça 25 minutes à 180 degrés dans un four. Et voilà, vous avez l'expression du gruyère magnifique.
Et rappelez-nous le mot que vous nous avez appris tout à l'heure, là. Un plaisir.
Organoleptique.
Oui.
Il y a l'ensilage aussi.
Et l'ensilage aussi. Bah
ouais. C'est la chronique où on apprend des mots, on apprend des recettes.
Je suis désolé d'être un peu plus...
C'est une chronique gourmande.
Et on retrouve toutes ces recettes sur le site d'Europe1.fr. C'est un combat organoleptique qui nous attend à présent, les amis. Attention, Stéphane, c'est la lutte finale.
Oui, ça vous oppose, la lutte finale. Olivier, Mathieu, David, je pose des questions sur l'histoire. Et puis, voilà.
Advienne que pourra.
Advienne que pourra. Je commence toujours par vous, Olivier. En 1791, les représentants de la Révolution doivent défendre le territoire français face aux multiples conflits. Les rangs de l'armée se doivent d'être remplis. Pour être apte, il y a peu de critères. Mais il faut quand même faire 1m54 minimum. C'est vrai ou c'est faux ?
En dessous d'1m54, vous passez en dessous des balles et des boulets de canon, ça peut avoir des avantages. Oui, moi je pense que c'est vrai, je pense qu'il y a une taille réglementaire. Il y a toujours eu une taille réglementaire à l'armée, je crois d'ailleurs.
Oui.
Bonne réponse, c'est vrai. Ça peut paraître bas, mais on sait qu'en 1872, 5% des hommes adultes faisaient moins d'1m45.
Ah oui ?
5%, oui. David, la question est pour vous. Le xyphos était une maladie vénérienne de la Grèce antique. Vrai ou faux ?
Comment vous dites le xyphos ?
Oui, le xyphos.
Tu l'as pas eu celle-là ?
Lequel ?
Ça s'attrape d'une manière...
Je veux vous donner la réponse !
Non.
Bah, vous dites que ça s'attrape de manière...
Il y a plein de choses qui s'attrapent.
Donc, je ne peux pas imaginer que Stéphane Bern soit fourbe au point d'avoir
fait ce... Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire.
Bon, admettons que c'est vrai, voilà. Mais voilà,
c'est faux.
Non, c'est dégueulasse, Stéphane.
Ça s'attrape avec la main, c'est une courte épée grecque à double tranchant.
Le xyphos.
On peut dire que le xyphos est l'ancêtre du glaive romain.
Ah ouais,
ça s'attrape comme ça, vous voyez, par la main.
Vous êtes vraiment plus pervers que moi encore dans le quiz, Stéphane.
C'est
choquant.
C'est pas possible. Il y a encore un fossé qui nous sépare. Alors, Mathieu Noël, c'est la bérésina. Vous connaissez cette expression française pour dire que c'est la déroute. Et pourtant, cette bataille est une victoire pour Napoléon contre les Russes. Vrai ou faux ?
Je suis désolé, Stéphane, mais... C'est pas possible que ça ait été décrété. Je vois ce que vous voulez dire, mais c'est pas possible. La Bérézina, c'est une défaite française. Ensuite, il rentre à Paris en carrosse en laissant l'armée derrière. Non. Alors, à moins que 3 jours plus tard, en fait, ils aient regagné le truc et que finalement, ce soit une. Non, j'ai pas envie de croire ça. J'ai pas envie de croire ça. C'est une défaite, donc ce que vous dites est faux. Non, c'est n'importe quoi.
En revanche, ce qui est une victoire, c'est la mienne aujourd'hui.
Non, ça n'a pas de sens.
Alors, je vous explique. Non. La Bérézina fut effectivement une victoire française.
Mais comment ?
Sauf que. Ça s'est fait dans des conditions terribles, difficiles. Un succès qui n'aurait pas été possible sans les Russes du général Éblé et ses pontonniers, écrit Jean Tulla. Mais on est en 1812, 45 000 morts, des conditions difficiles. C'est une bataille qui est gagnée dans une campagne qui, elle, est perdue.
Mais ça s'entend bien.
Et
en
fait, c'est parce que vous pensez à la retraite de Russie.
Mais c'est pas juste après la bataille de la Bérézina que Napoléon rentre précipitamment à Paris.
Mais cette bataille-là, on l'a gagnée. Eh oui. Eh bien, c'est vous, Olivier Pouls, qui gagnez aujourd'hui. Bravo, la lutte finale.
Pour les Belges, il y en a plus.
Ouais.
Bravo, Olivier Pouls, pour une fois, vous l'emportez. Un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre se termine. Lui, il était consacré, Stéphane, à ces personnages de l'histoire qui ont joué à brouiller les pistes de leur propre vie. Vous-même, vous n'êtes pas du genre à essayer de brouiller les pistes en interview.
Non,
vous êtes plutôt partir de la transparence.
Oui, après tout.
Vous savez, tout finit par se savoir, alors autant... Bon, on peut réécrire des épisodes de sa vie, mais
Votre date de naissance, en revanche.
Non, ça par contre, non. Mais on peut enjoliver, comme vous le faites aussi.
Ça m'arrive, oui. Qu'est-ce qui nous attend demain ? Une émission assez sonore, je crois.
Ah oui, écoutez.
Jean-Sébastien Bach. Il sera là ?
Non, pas lui. Mais on réunit trois personnages qui sont fascinés par lui. Le compositeur Johannes Brahms, la chanteuse Nina Simone, qui avait même un poster de Bach dans sa chambre.
Poster de Bach, j'aimerais bien le voir. Et le comédien Alexandre Astier, qui a incarné Bach sur scène, et c'est loin d'être un hasard, vous verrez.
Oh, j'ai hâte. Alors à demain, Mathieu. À demain, chers auditeurs.
À demain, Stéphane. À demain, les amis. À suivre, c'est Europe Soir avec Céline Géraud.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.